Voilà, chers auditeurs, bonsoir, Olivier Tournafond. J'ai bien fait de choisir un générique long, vous voyez, parce que comme ça, quand je suis en retard, vous pouvez entendre l'ouverture de Jules César de Robert Schumann et en profiter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein, elles dureront en fait peut-être 10 minutes. C'est un très beau disque de chez Naxos, les ouvertures de Robert Schumann, dont je vous conseille l'acquisition, mais vous l'entendez peut-être aussi sur YouTube, sur plein de choses. Alors voilà, Schumann, je ne sais pas si Schumann d'ailleurs était catholique ou protestant, tiens, Robert Schumann. Il est probablement protestant, je pense. Bah, ils étaient protestants en Allemagne. Bon, c'est les Autrichiens qui étaient catholiques. Alors, j'ai le plaisir, ce soir, je suis accompagné de Bérénice Tournafond et de Marc de Staël, comme d'habitude, qui va lire les questions des auditeurs. Je reçois un très intéressant auteur, historien et philosophe, la personne d'Alain Pascal. Alors j'ai découvert Alain Pascal parce que ma femme m'a envoyé un lien pour une émission sur géopolitique profonde. Mike Borowski, il s'appelle comme ça, qui durait quand même 1h30. Je regarde très rarement des trucs qui durent 1h30 parce que j'ai pas le temps. D'habitude, ça ne dépasse pas 10 minutes, mais là, ça m'a tellement intéressé. Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, mais ce type-là, il est intéressant. Il faut absolument le faire venir sur Radio Courtoisie, parce que ça va prendre la suite de ce qu'on a dit avec Jean-Louis Harwell, qui est intervenu à la dernière émission. Alors, le thème de cette émission sur géopolitique profonde, c'était la franc-maçonnerie, et c'était extrêmement intéressant. Mais après, Alain Pascal a développé beaucoup, beaucoup de thèmes en rapport avec ça. Alors, j'ai mis plusieurs jours à l'écouter, parce que je le faisais par tranche d'une demi-heure, hein. Et c'est Richard de Sesse qui, très gentiment, m'a mis en contact avec lui, ce qui m'a permis de l'inviter ce soir et demain soir, puisqu'il y a de nombreux ouvrages. C'est un écrivain qui a écrit de nombreux ouvrages. Alors, Alain Pascal, bonjour, vraiment très heureux de vous rencontrer ce soir. Vous avez un parcours très atypique, parce qu'on peut dire que vous êtes une sorte d'historien et de philosophe autodidacte, car votre première profession est d'être avocat. À l'origine, vous êtes avocat au barreau de Paris dans les années 70.
Oui.
Et après, alors vous n'avez pas eu l'air de apprécier beaucoup le milieu du barreau, puisque vous êtes parti. Ensuite,
je vais peut-être raconter.
Oui, et puis après, vous êtes devenu professeur de tennis, c'est ça qui m'a amusé.
Oui, vous voyez, le droit mène à tout.
En Grèce, de surcroît.
Oui, à Paris et en Grèce. D'abord, je vais commencer par dire à mes croisés bonsoir, parce que je suis un croisé. J'étais un baptisé, mais je suis redevenu. Je combats pour le Christ, appelons les choses par leur nom, et pour le catholicisme. Et je vais aussi commencer par rendre hommage, parce que je suis quand même déjà venu sur Radio Courtoisie.
Oui, je sais, avec Serge
mais
de Bekech.
Je suis venu, voilà, il y a 30 ans, avec oui. Serge de Bekech.
Oui.
Et Serge j'avais un premier livre, qui a donc 30 ans, qui s'appelle « La trahison des initiés
oui. ».
Et le sous-titre dit tout, c'est « La franc-maçonnerie, du combat politique à la guerre de religion
oui. ».
Car derrière la mainmise de la franc-maçonnerie sur la République, il se cache, ou ne se cache pas, parce que ça se dévoile aussi, une guerre de religion contre le catholicisme. Donc si vous voulez, il faut déjà prendre conscience de ça. Seule chose que je puisse dire, c'est que tout ce que j'ai écrit dans ce livre s'est passé, parce que je connaissais les mots d'ordre maçonniques, donc je savais ce qui allait se passer.
Voilà.
Et moi, j'avais écrit ce livre à l'avance, mais je l'ai publié. Ça a été publié en 96, donc il y a 30 ans. Et ensuite, j'ai eu 3-4 livres. Ma maison d'édition avait été condamnée, pas pour un de mes livres, mais sur un livre de Guillaume Fay sur l'islam.
Ah oui. Oui, c'est ça.
Donc ça a été fermé. Je suis resté 7-8 ans sans éditeur. Et j'ai deux éditeurs nouveaux et qui sont des jeunes. Donc il y a une nouvelle génération. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit naître une nouvelle génération, à la fois de lecteurs, j'ai des lecteurs, et d'auteurs, puisque le verbe haut, c'est Sylvain Durin, qui lui-même est un spécialiste de René Girard, dont on dira quelques mots.
Oui.
C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. Alors, sur mon parcours, donc je suis avocat à Paris, et si vous voulez, j'ai été confronté, je suis un jeune grouillot, un jeune avocat, un grand scandale politique des années 73, c'est-à-dire 1973, où il y a un député de droite et un député de gauche qui sont dans un immense scandale, une escroquerie où on escroque tous les retraités sur des milliards. Hein, c'est une affaire, ce qui a
fait... Des milliards de francs.
De francs, oui.
Et
un impossible de les mettre en examen.
Ah, oui.
Et les deux députés sont francs-maçons, le juge d'instruction est franc-maçon, ah, oui. Le procureur est franc-maçon et le ministre. Et je suis évidemment, et la plupart des avocats, on était deux à ne pas l'être. Donc si vous voulez, et je ne reste pas dans le dossier, mais ça m'a déjà ouvert les yeux. Mm-hmm. La deuxième étape, c'est dans les années 80, je rentre au Front National dans les années 84, oui. Et là on est confronté...
Oui, au moment où Jean-Marie Le Pen commence à monter
voilà,
dans les élections. Oui.
Et puis je connais Stierbois...
Vous étiez encore avocat?
Non, j'avais arrêté. Alors j'avais arrêté parce que mon but, ma passion c'était la philosophie de toute façon, et mon but c'est d'écrire. Et quand on est avocat, on n'a pas le temps d'écrire. Alors, j'étais devenu avocat par amour de la justice et je vais dire que j'ai quitté la profession par amour de la justice.
Oui.
Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, je donne des leçons de tennis. Alors, j'étais l'avocat, je jouais correctement au tennis, sans être fort, mais quand même. Et j'étais l'avocat de joueurs de tennis.
Donc,
ils m'ont dit, viens travailler avec nous. Et pendant une dizaine d'années, j'ai enseigné à des enfants et à des adultes.
Et vous avez gagné votre vie comme ça?
Oui, bah oui. Parce que j'avais plus rien. Il s'avère que j'ai eu, ça n'a pas d'intérêt suffisamment d'argent, si vous voulez, pouvoir écrire. Et si vous voulez, dans mon parcours, on fait toujours des rencontres. J'ai rencontré des philosophes, donc je me suis intéressé à la philosophie, et j'avais travaillé sur un philosophe balte qu'on ignore, et qui s'appelle Kaiserling.
C'était un ami de mon grand-père. Alors, mon grand-père, Maurice Delamain, le père de ma mère, était éditeur. Il avait des éditions Stock.
Mais bien sûr,
il a édité Kaiserling et il le invitait très souvent.
Absolument.
Il était très ami avec lui.
Et j'ai participé au centenaire de Kaiserling. Et alors, c'est là où on rencontre des gens.
C'était un baron balte, Hermann von Kaiserling.
Et c'est un visionnaire prodigieux.
Oui.
Parce qu'il a vu que le langage était inversé. Donc, ça, je vais y revenir. Mais. Pour lui, le monde moderne allait retourner au primitif.
Oui, ça c'est
alors, on est dans les années 1920, et il prévoit aussi que les socialistes vont arriver au pouvoir, et il prévoit que l'islam va déferler sur l'Europe. Donc, dans les années 1920, c'est plutôt brillant.
C'était à la même époque que René Guénon a écrit La crise du monde moderne,
absolument.
En 1926 ou 1927.
Et si vous voulez, au centenaire de Kaiserling, vient un philosophe canadien, tout le monde est mort depuis, qui s'appelait Klimov et qui était un spécialiste de Jacob Boehme. Mm-hmm. Et je ne connaissais... Moi, j'avais donc étudié la philosophie sans faire les études parce que je suis anti-cartésien. Je vais expliquer pourquoi, au nom de la raison. Il faut tout de suite essayer de se faire comprendre. Et j'ignorais Jacob Boehme, et par ce philosophe qui était retourné ensuite au Canada... je découvre cet auteur. Alors, Jacob Boehme est à l'origine de toute la philosophie moderne, et notamment de l'idéalisme allemand.
Boehme, il a vécu à quelle
époque ? Il est avant Descartes. Et il est à l'origine de l'idéalisme philosophique moderne avant Descartes.
Et avant Kant, bien sûr.
Etc. Donc, si vous voulez, voilà le parcours, et à ce moment-là, grâce à Beckett, mes livres commencent à se vendre. J'ai d'ailleurs fait ici aussi une émission, je dis le souvenir, avec Jean-Marie Le Pen, puisqu'on n'était que trois en scène. Donc, mon premier livre, je l'ai édité à compte d'auteur, parce que personne n'en voulait, évidemment.
Alors, quel était le titre de votre premier livre ?
La trahison des initiés.
La
franc-maçonnerie, qui est une introduction à l'histoire maçonnique. Mais depuis,
Ce livre ne vous a pas attiré trop d'ennemis parce qu'ils sont puissants, les francs-maçons.
J'ai fait attention à ce que j'écrivais. Ouais. Et puis, l'insuccès fait que...
Oui, que ça n'a pas attiré l'attention. Alors, vous avez écrit d'autres... Excusez-moi, je suis obligé de vous presser un peu parce que les émissions ne font qu'une heure et demie. Mais heureusement, vous revenez demain soir.
Alors,
il faut peut-être exposer à vos éditeurs les différents ouvrages que vous avez écrits, notamment celui que vous m'avez très gentiment offert ce soir et qui m'intéresse particulièrement parce qu'il s'appelle... pour une révision totale de l'histoire.
Oui.
Et il y en a un deuxième qui vient de sortir et dont on parlera peut-être davantage demain, c'est La crise sacrificielle du monde moderne.
Qui est un essai sur René Girard, qui fait aussi partie des découvertes.
Alors il y a une sorte de mix de René Guénon et de René Girard, puisqu'il y a la crise du monde moderne de René Guénon, de 1927, et il y a la crise, et puis il y a tout l'idée de sacrifice humain de René Guénon, notamment dans la... la route antique des hommes pervers. Non, je ne sais plus quel est le titre de ce livre de Girard, très connu.
Il y a les choses cachées depuis la fondation du monde. Je vois Satan tomber comme un éclair.
Il y a la route perverse des hommes antiques, quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, mais alors ce n'est pas un texte que j'ai...
La route perverse des hommes antiques. Si, ça existe. Ça existe, et c'est ce que...
La
violence et le sacré, voilà. Évidemment. Alors là, c'est un très intéressant. Alors, vous avez écrit d'autres ouvrages entre les deux, d'ailleurs.
Alors, ce livre que vous présentez est un petit peu un résumé de tous les autres. Oui. Donc, ça peut servir d'introduction à ce que j'ai pu faire pour les personnes qui ne m'ont pas encore lu.
Il est de quelle année ?
Il est
de 2025. Ah oui, il est très récent.
Oui, il est très récent.
Ah oui, c'est très intéressant.
Et c'est une forme de résumé. J'ai écrit, pas tous les citer, mais j'ai écrit quatre... Alors, comme je ne sais pas comment... Les francs-maçons sont divers, parce que ça, on va rentrer dans le sujet, si,
mais tout,
si vous voulez.
Tout n'est, voilà. Tous vos ouvrages ne sont pas consacrés
non,
à la franc-maçonnerie.
Non, à la franc-maçonnerie, mais c'est la matrice, si je peux m'exprimer ainsi.
Oui.
Ils sont divers, ils ont des obédiences, mais ils sont réunis par une religion qui s'appelle la gnose.
Ah bah alors voilà, là ça m'intéresse particulièrement parce que nous avons reçu dans ce studio il y a un mois maintenant notre éminent collègue Jean-Louis Harwell, qui est en train d'ailleurs d'écrire un ouvrage fondamental sur les origines religieuses des idéologies progressistes, qu'il rattache explicitement à la gnose, comme vous, et à ce qu'il appelle le millénarisme, qui est une autre hérésie du christianisme.
Oui.
C'est pour ça qu'il dit que les gens de gauche, il les appelle les gnostico-millénaristes. Alors je répète, gnostico et non pas mystico ni millénariste, parce qu'il y a des auditeurs un peu distraits qui avaient entendu mystico et millénariste, ça ne veut rien dire du tout, c'est pas ça. Gnostico-millénariste, c'est-à-dire deux hérésies du christianisme, dont Jean-Louis Harwell a parlé longuement, la gnose et le millénarisme, et qui sont la matrice des mouvements révolutionnaires que nous subissons encore aujourd'hui, et dont nous considérons, Alain Pascal et moi, qu'ils sont une manifestation, tout simplement, du démon. Moi, je crois qu'il faut parler franchement, n'ayons pas peur des mots, parce que c'est une perversion, c'est une dénaturation extrêmement dangereuse de l'idéal chrétien, puisqu'on va remplacer Dieu par un être par définition imparfait, qui est l'homme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait écrire un de mes collègues, Philippe Lovot, qui dit la grande tare du régime démocratique, c'est qu'elle érige en divinité une entité, le peuple, qui est par essence imparfaite et même totalement imbécile. Et ça, c'est extrêmement juste. Donc c'est ériger en divinité quelque chose qui est imparfait. Donc évidemment, après, les choses ne se passent pas bien du tout.
D'autant que le peuple ne gouverne pas, parce que la démocratie, c'est
en principe le peuple change très souvent d'avis,
la démocratie n'existe pas.
Bien sûr.
Je me suis aussi rendu compte de ça, dans les faits.
Dans les faits,
voilà. Et
excusez-moi, je vous interromps, mais alors les autres livres, alors la révision.
J'ai écrit quatre tomes sur la gnose,
c'est-à-dire les
premiers temps, un livre qui s'appelle La Pré-Cabale, c'est-à-dire que j'essaierai d'expliquer, parce que toute l'histoire officielle est fausse.
Ah bah voilà
est issu de mensonges, y compris les chronologies.
L'intelligence du christianisme, ça me fait penser à ce qu'a écrit Harwell. Le vrai génie du christianisme.
Oui, c'est lui aussi. Ensuite, je connais bien.
Il faudrait qu'on fasse une émission avec vous tous les deux. Vous voyez, l'islam et Kabbale,
Ça, c'est le deuxième tome. Troisième tome, c'était La Renaissance, cette imposture, parce qu'il n'y a pas de Renaissance. Alors, j'invente pas, évidemment. Il y a déjà eu Jacques Herse, Madame Pernoud, il y a des grands historiens. La réforme, cette révolution, ça c'est le cycle de la guerre des
Gnoses. La révolution des Illuminés, les droits de l'homme contre Dieu. Vous voyez, on croit retrouver les titres et les sous-titres de Jean-Louis Harwell, parce qu'il a écrit aussi Les droits de l'homme contre le peuple.
Contre le peuple, je sais.
C'est intéressant. Donc en fait, la main de Dieu vous guide tous les deux.
Mais Jean-Louis Harwell.
La seule chose, c'est que contrairement à vous qui êtes croyant, et ce dont je vous félicite, parce que nous sommes ici tous croyants, lui, il se veut agnostique. Alors un jour, je lui dis : mais pourquoi ne fais-tu pas le pari de Pascal, en somme ? Et qu'est-ce que tu risques ? Et il m'a dit : non, ça m'embarrasserait trop de remettre en question tout ce à quoi je me suis construit. Mais bon,
parcours n'est pas terminé.
Son parcours n'est pas terminé. Et Dieu peut lui prêter une très longue vie. S'il vit jusqu'à 120 ans, il a encore le temps
Et tous les ans, je réunis des auteurs que j'apprécie.
Jean-Louis
Harwell, il n'était pas libre cette année, mais il était là l'année dernière. Donc, aux Amis de Pascal, c'est un auteur, évidemment, que j'apprécie tout à fait.
Oui, oui.
La route antique des hommes pervers.
Bah, c'est voilà. Bien ça, c'est ça. C'est bien ce que j'ai dit.
C'est bien, ça.
C'est bien sûr, la route antique des hommes alors, pervers. C'est, voilà.
C'est pas un des textes de Girard que j'ai retenu parce que ce que j'ai retenu dans Girard, il y a beaucoup de concepts girardiens, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est le concept de crise sacrificielle.
Oui, oui, ben oui.
Voilà,
oui.
C'est la,
alors, on va en reparler de la crise sacrificielle, surtout dans demain avec votre deuxième ouvrage. Alors,
absolument.
Ce qui est très bien dans ce livre, pour une révision totale de l'histoire, moi, je vais citer une phrase de quelqu'un qui est assez connu quand même et qui était considéré comme très intelligent, c'est Napoléon Bonaparte. Il a dit « L'histoire est un mensonge que personne ne conteste ». Et c'est d'une vérité fondamentale. L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Mais c'est une évidence. Donc, Napoléon ne se faisait aucune illusion.
Ça, c'est sûr.
Sur la réalité. Et parce que, en
maintenant,
fait,
pardon, mais le personnage lui-même, je suis très critique
évidemment,
à l'égard de Napoléon.
Oui, oui, mais on peut.
Qui a fait couler le sang.
Bah, sans doute,
du français,
mais
hein, de plusieurs millions. Et qui a gangréné l'Europe entière maçonniquement. Parce que l'armée est maçonnique.
Néanmoins, au moins, il aurait été d'accord sur ce point avec vous. Et alors, le révisionnisme historique est parfaitement légitime. Ce n'est pas du tout une insulte que d'être révisionniste.
Alors je ne suis pas révisionniste.
Oui, moi je m'aurais défini comme tel parce que je pense que l'histoire peut être révisée à tout moment, quel que soit le sujet. Alors après, je ne refuse d'ailleurs le titre négationniste parce que quand on dit, bah voilà, tel événement n'a pas eu lieu, bah après tout, on a le droit de. Et puis après, on discute. Bon, si vous dites l'incendie de Rome n'a pas eu lieu, vous avez le droit. Hein. Bon, après, ou c'est pas Néron qui a incendié Rome.
Ou le Christ n'a pas vécu.
Le Christ n'a pas vécu. Regardez Salomon de Reinhardt et plus voilà. Encore proche de nous, comment s'appelle-t-il, et Michel Onfrin le soutient. Bon, après tout, bon, et on ne traite pas de négationniste.
Non,
il
mais
a le droit,
on peut les traiter de ridicules.
Oui, peut-être. Mais ah, il y a des choses qui peuvent être dites. Mais on a le droit, et il n'y a pas de raison, on ne va pas faire une loi qui interdit de dire ça. Il y a des gens qui disent qu'on n'est pas allé sur la Lune. Tiens, je prends un exemple.
La loi existe, monsieur. La loi existe.
Oui, il y a des lois. Enfin, c'est des lois iniques, des lois absolument criminelles, et qui d'ailleurs, paradoxalement, ont un effet pervers. C'est la route perverse des hommes antiques, parce que si vous avez la liberté de discussion, bon, il n'y a pas d'interdiction de discuter, les gens disent « oh ben non, c'est pas sérieux ce truc-là », ils n'ont pas envie de perdre leur temps avec ce truc-là. Dès lors qu'on dit « ah attention, on n'est plus le droit de contester ça », ça crée une suspicion légitime. Vous dites, ah bon, tiens, mais c'est bizarre quand même. Tiens, imaginez, prends un exemple au hasard, la Lune. Il y a des gens qui disent, s'ils y sont pas allés dans les années 70, c'est pas possible, pour toutes sortes de raisons. C'est un montage. D'ailleurs, Stanley Kubrick l'a dit. Bon, pour le moment, on dit, hop, tiens, oui, c'est bizarre. Mais enfin, on est perplexe. Mais imaginez que, brusquement, un Parlement vote une loi qui renvoie devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris le fait d'avoir dit publiquement qu'on n'était pas allé sur la Lune. Ben, celle serait le premier conséquence pour vous et moi, c'est qu'on dirait, ben non, ils n'ont pas dû y aller. Parce que c'est pas normal, ça. Ça va pas. Il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans.
En philosophie, le grand Manitou de mon temps était Jean Kelevitch.
Oui.
Et qui interdisait qu'on étudie la philosophie allemande.
Bon.
Et il est absolument certain que je suis tout de suite allé me plonger dans Kant et Hegel. Donc je viens de faire une critique. Alors, j'ai encore un autre livre qui est sorti une autre maison d'édition, mais il n'est pas encore là. Il est là, mais il vient de sortir. Qui est sur le 19e siècle, et où je dis aussi beaucoup de mal de Napoléon.
Donc, mais on peut, un auteur.
Et de Kant et Hegel,
vous pouvez prendre des citations de Napoléon, de Staline, d'Hitler. Vous avez des choses parano, mais vous avez des choses extrêmement justes. C'est pas parce que...
Mais il connaît bien l'humanité, Napoléon.
Et Hitler aussi connaissait bien. Quand Hitler dit dans Mein Kampf, on ne demande jamais au vainqueur s'il avait raison, c'est vrai. Et quand il dit, plus ils sont petits, plus ils veulent paraître grands, on le voit tous les jours.
Avec lui, notamment, parce qu'il était assez petit.
Non, il n'était pas si petit que ça. Il n'était pas plus petit que Napoléon, d'ailleurs. Il était de taille moyenne. Mais il n'était pas si petit,
parce qu'on ne sait pas non plus, Hitler est un romantique.
Oui,
donc si vous voulez, le livre qui vient de sortir dans le sixième, le cinquième tome de La Conspiration des philosophes, parce qu'après la guerre des Gnos, j'ai écrit cinq tomes de La Conspiration des philosophes sur la philosophie, s'appelle du romantisme au national-socialisme, justement parce que du mouvement romantique va émerger au bout d'un certain périple, à cause notamment de la philosophie d'Hegel. Vous savez qu'Hegel a dans sa filiation les communistes et les nazis.
Oui, bien sûr.
Donc, oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais monsieur, à l'université, on n'insiste pas là-dessus.
C'est ce que nous, nous avons appris avec Jean Rouvier en 1974.
Oui, oui.
Catherine Rouvier étant directeur d'édition ici, sa fille.
Mais ça,
on l'a appris.
Ici, oui, mais pas à l'université.
Plus maintenant.
Il y a les bons, il y a les méchants.
Dans les années 70, nous l'apprenions à la fac de droit de Paris 12.
Bien sûr.
Nous l'apprenions dans tous les bons cours d'histoire des idées politiques.
Bien sûr, parce que c'est l'histoire.
Mais bien sûr.
Et aujourd'hui, on assiste à un abrutissement de la jeunesse. Et heureusement, il y a un jeune intelligent, il ne peut pas, il peut pas admettre tout ce qu'on lui dit. Il sent bien qu'on lui ment. Il faut que les électeurs, ils sentent qu'on leur ment, mais ils sont prêts à retomber dans le nouveau piège qui sera tendu. Mais un jeune intelligent, moi je m'adresse aux jeunes principalement, parce que ceux de ma génération sont des cas désespérés.
Ah, ils sont déjà. Pas ceux qui sont radio-courtoisie.
Ah bah non, là, monsieur, je ne fais pas d'amalgame. Ah, il y a toujours des exceptions à tout, bien entendu. Bien entendu. Et dans la jeunesse, il y a des exceptions. Malheureusement, beaucoup de jeunes qui sont assez dégénérés, il faut appeler les choses par leur nom, mais vous avez aussi des jeunes intelligents.
Mais évidemment.
Et qui se convertissent.
On en a des exemples autour de nous.
Voilà.
À commencer par dans notre propre famille, nous avons des jeunes qui sont lucides. Voilà. La seule chose, c'est que les jeunes lucides sont confrontés à un dilemme. Soit défendre la vérité et risquer d'être exclus de la vie sociale, de la vie politique, de la vie des affaires, parce qu'il y a un ostracisme. Ou alors, ne rien dire et se laisser être plus ou moins complice du monde moderne et de ses mensonges, qui sont très nombreux. Et là, le danger, c'est de se laisser phagocyter petit à petit et corrompre. Et c'est le grand danger, ça. C'est le grand danger parce que moi, je me souviens d'une discussion intéressante avec une fille qui était d'ailleurs d'origine marocaine ou algérienne. Parce que souvent, vous trouvez dans les gens d'Afrique du Nord plus de liberté de penser que chez les petits chrétiens blancs, ou pas chrétiens du tout d'ailleurs, souvent les petits blancs, j'arrête. Et à un moment, on parlait de réchauffement climatique, et je dis, écoutez, il faut savoir raison garder, il n'y a jamais eu de règlement du climat. Alors qu'à l'époque des dinosaures, est-ce que le climat était bien réglé? Il faisait 40-30 degrés à Fontainebleau, c'était un fond marin, est-ce que c'était bien réglé? Quand il y a eu la grande glaciation il y a 24 000 ans, il y avait 1000 mètres de glace au-dessus de la Suisse, est-ce que c'était le bon règlement climatique? Il n'y a pas de règlement climatique, parce qu'on parlait de normes climatiques, mais c'est ridicule.
Il y a eu un réchauffement climatique il y a 10 000 ans.
Oui, voilà, bon, il y a un réchauffement. Il y a eu le petit âge glaciaire entre le 16e et le 19e siècle, et puis on sait que maintenant, il y a de nouveau un réchauffement. On a reçu ici François Gervais, donc je leur dis tout ça. Ils étaient absolument abasourdis. Il y a une fille qui me dit, mais enfin, monsieur, Greta Thunberg, elle dit qu'elle sent le CO2 dans la rue quand elle sort. Ben, je dis, sauf que le CO2 est absolument inodore. Et je vois pas comment elle pourrait le sentir. Ça sent pas, c'est pas du gaz moutarde. Ouais. Et à la fin, je dis à une étudiante qui était restée là, mais enfin, est-ce que vos camarades, ils y croient, toutes ces bêtises? Et elle me dit, vous savez, je crois que non, en fait, ils y croient pas. Mais ils ont peur, en le contestant, ils ont peur d'être exclus.
Oui,
c'est certain. Et d'être la cible d'attaques sur Internet. Et d'être mal vu de leurs profs.
Alors, ce qui compte, voilà. Ce que je peux dire, moi, c'est ce qui compte. Il faut bien s'intégrer dans la société.
Ouais, c'est ça.
Mais ce qui compte, c'est l'âme.
Ah, voilà.
C'est leur âme.
Ah bah, c'est évident.
Donc, le choix, il y a un moment où il faut témoigner, si on est chrétien, on doit. Et les premiers chrétiens ont témoigné jusqu'au martyr.
Exactement.
Alors, évidemment, on a envie de vivre. Tout le monde a envie de vivre.
Et voilà.
Et on a envie d'être heureux.
Et on n'a pas envie de s'emmerder.
Mais on ne doit pas non plus abandonner l'essentiel. Et si on ne témoigne pas pour le Christ, on est contre le Christ.
Bah, c'est évident.
Et le choix, c'est où on est pour le Christ, ou, comme pour revenir à la gnose, on entrave la marche du Saint-Esprit.
Ouais.
Donc on commet ce qu'on appelle en théologie un péché mortel irrémissible.
Ah oui, quand même.
Oui. Donc si vous voulez, il faut que les jeunes soient prudents. Ouais. Et notamment quand je parle de la franc-maçonnerie, on peut réussir sans être franc-maçon, bien entendu.
La preuve, je n'ai pas jamais été franc-maçon.
Mais c'est difficile de réussir si on est contre eux. Donc moi, je connais des exemples de jeunes, des jeunes de 30 ans, parce que je parlais aussi de jeunes de 15-16 ans. Moi, j'ai vendu des livres à des 15-20 ans.
Hein, ah oui.
Voilà. Et en leur disant, mettez surtout pas ça dans vos copies scolaires, évidemment. Et on peut réussir... Mais il faut faire attention dans la société dans laquelle on travaille, on est dans une grande société notamment. Il y a obligatoirement des francs-maçons à des postes importants.
Alors,
Et vous pouvez perdre votre situation. Donc vous pouvez dire que vous êtes chrétien, parce qu'ils tolèrent soi-disant le christianisme, mais il ne faut pas dire que vous êtes anti-franc-maçon, parce que sinon vous perdez votre situation.
Alors, on ne peut pas d'ailleurs être forcément anti-franc-maçon en général, parce qu'il y a différentes loges et différentes obédiences.
Oui, mais ça, je vais diverger, si vous voulez.
Oui, mais enfin, quand même, je veux dire, entre le Grand Orient, la Grande Loge Nationale de France, la Grande Loge de France, les sites écossais, les rites écossais,
il y en a 36.
Il y en a plein.
C'est exprès.
Et alors, il y a même...
Chaque loge attire son gogo.
Moi, je sais qu'il y a 25 ans, quelqu'un qui aujourd'hui, d'ailleurs, député du Rassemblement National, voulait que nous rentrions tous les deux dans une loge écossaise, on a laissé tomber, on n'a pas voulu, non. Il a dit, je vous ferai rentrer, non. Et il a dit, mais c'est très à droite, c'est tout à fait vos idées, c'est très bien. On n'a pas voulu du tout, et on a laissé tomber. Lui, il a bien réussi, d'ailleurs. Il est député, maintenant. Bon, je ne vais pas donner son nom. Il est député, il a bien réussi. Il est de droite, hein, d'accord. Il est de Rassemblement National. Enfin, pour nous, c'est une droite très modérée, on dirait. C'est la droite de Jean-Marie Le Pen.
Les obédiences diverses sont réunies par la gnose. Oui. Ils ont une religion commune qui est la gnose. Oui. Que ce soit... Alors, il y en a qui sont plus... athées que d'autres, le Grand Orient.
Plus athées,
voilà, il y a des loges, il y a la Grande Loge Nationale Française, dans laquelle effectivement il y a des gens de droite.
Oui,
mais il n'empêche que leur religion est la gnose. Et un franc-maçon le sait, s'il s'intéresse, il sait en vérité qu'il sert le diable, hein, on va appeler les choses
vous
par leur nom.
Vous croyez qu'il en est conscient? Parce que des francs-maçons nous ont soutenu qu'ils pouvaient être chrétiens et francs-maçons.
Oui, mais ça c'est un mensonge qui dure depuis plus de 250 ans. Et les faits ont sans arrêt démontré le contraire. Oui. Alors, il y a des avancées d'Hercule. Vous parlez du rite écossais, c'est un des pièges maçonniques. D'abord, le rite écossais n'est pas écossais. Alors, déjà, c'est un premier mensonge fondamental. Et au troisième degré, c'est-à-dire avec le grade de maître, vous savez que vous êtes un fils d'Hiram.
Voilà, quoi, Hiram?
Hiram, c'était l'architecte du temple de Salomon. Mais vous savez, avec les francs-maçons, tout est embrouillé. Il y en a deux des Hiram. Hein. Vous avez l'Hiram qui est dans la Bible et vous avez l'Hiram Abif. C'est pas le même, mais on fait croire que c'est le même, etc., etc. Parce que ça, pour embrouiller, ils sont très, très forts. Mm-hmm. Mais vous savez, à ce moment-là, Hiram est un fils de Caïn. Et si vous êtes un fils de Caïn, vous êtes un fils du diable. Donc, les francs-maçons se revendiquent eux-mêmes, ceux qui connaissent, sont des fils de Caïn.
Tous, sans exception.
Mais c'est la franc-maçonnerie.
C'est eux qui le disent, d'accord.
Alors ensuite, vous avez des obédiences, ils se sont même coupés la tête entre eux, hein. Oui. Il y a des rivalités énormes. La révolution dite française, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La révolution des Illuminés », la révolution n'étant pas faite, on va revenir sur la révision de l'histoire, mais elle n'est pas faite par le peuple, elle est faite par des mercenaires dirigés par des francs-maçons, payés par l'Angleterre.
Est-ce qu'ils étaient tous francs-maçons?
Non, pas tous.
Alors,
c'est pareil, l'hypocrisie est extraordinaire, parce que vous ouvrez, moi je travaille sur les dictionnaires maçonniques, vous ouvrez la Révolution française, on vous dit on n'a rien fait, et puis vous prenez Lafayette, Talleyrand, Brissot, etc., et là...
Danton, par exemple.
Oui, Danton, et à ce moment-là, ils sont tous, ceux-là, ils y sont. Voilà, Robespierre c'est autre chose, il n'est pas reconnu comme un franc-maçon, mais pour moi il est Rose-Croix, parce qu'Arras, il fait partie des Rose-Croix. Alors là aussi... Et les francs-maçons vous disent les Rose-Croix n'existent pas. Mais par contre...
Si, ils existent bel et bien, parce que leur siège était même au-dessus de Montreux.
Mais ça, c'est des sectes d'aujourd'hui.
Oui,
mais
enfin,
moi, je parle des Rose-Croix du XVIIe siècle, dont j'ai parlé dans un livre. Non, il y a des filiations. Mais, par exemple, ils disent ça n'existe pas. Et puis, dans certains articles maçonniques, vous dites, les Rose-Croix, par exemple, pour la Révolution, oui, il y en a qui viennent d'Allemagne pour faire la Révolution. Donc, ils existent. Mmh. Et le 18e degré du fameux rite écossais, c'est Prince Rose-Croix.
Ah oui.
Donc, voilà, il faut bien comprendre que les francs-maçons sont des menteurs professionnels. Mais pourquoi mentir? Si on prétend avoir des bonnes intentions et amener les gens vers le bien, la tolérance, pourquoi mentir?
Évidemment, oui.
C'est une organisation mensongère. Il n'y a pas d'autre mot.
Alors, je reprends votre livre, La révision totale de l'histoire. Bon, alors, l'idée du livre... Je crois, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais vous allez me corriger si je me trompe, et que l'histoire a été déformée par le rejet du christianisme depuis la Révolution française. Et c'est ça l'idée, c'est qu'il faut suivre. Alors, vos détracteurs, parce que j'ai regardé un peu ce que disaient de vous les lecteurs qui ont acheté votre livre, notamment sur le site de la FNAC. Alors, il y a beaucoup de très bons avis, hein, beaucoup. Vous avez plus de la moitié de très bons avis, mais vous avez des détracteurs. Alors, les détracteurs... vous reproche généralement une vision partiale, un tropisme pro-catholique exagéré. Certains vous accusent d'intégrisme et de fanatisme. Si on regarde des arguments un peu plus étayés, vos détracteurs font observer que l'histoire existait bien avant le christianisme et que la tentation de la falsifier a toujours été présente chez l'homme. Et on peut d'ailleurs effectivement donner un exemple qui est bien antérieur au christianisme, c'est l'histoire de Sardanapale, qui était un roi d'Assyrie, qui avait vaincu les Grecs, qui en avait conçu une certaine aigreur, et ils en avaient fait une réputation effroyable en le confondant intentionnellement avec le gouverneur de Babylone, qui lui était un type très débauché et puis bon, épouvantable. Et on a fait passer Sardanapale pour un homme qui se livrait à des orgies abominables. D'ailleurs, il y a le tableau de David au Louvre, la mort de Sardanapale, qui est d'ailleurs un tableau, je dirais, érotico, pas biblique, mais érotico, je dirais, antique, parce que la seule manière de représenter des femmes nues dans des positions scabreuses, c'était de s'inscrire dans une représentation de l'Antiquité.
C'est pas d'aujourd'hui, la révolution sexuelle et la débauche, c'est pas d'aujourd'hui.
La mort de Sardanapale, vous voyez toutes les débauches possibles, et je suis sûr que ça doit plaire à certains francs-maçons. Mais Sardanapale, pardonnez-moi, je termine ce que je voulais dire, était un type très bien en réalité. Parce que c'est lui qui a introduit l'écriture en Assyrie, et il a écrit « Je veux que mon peuple parle et écrive », parce que l'écriture est le moyen de rentrer dans le royaume des idées. C'est Sardanapale qui a écrit ça. Et Sardanapale, pour terminer, était un homme extrêmement courageux, puisqu'il combattait des lions. Enfin, un lion dans une arène armé d'un seul poignard. Pas mal, ça. Bon, alors, c'était pas forcément un lion énorme, mais enfin, bon, quand même, faut le
dans
faire.
Dans les critiques, j'aurais aimé des critiques sur les faits que je rapporte.
Oui.
Qu'on n'aime pas ma présentation.
Oui, mais avant le
c'est un peu polémique, parfois.
Avant le christianisme, voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des mais falsifications c'est... de l'histoire? Bah si,
alors, il y en a toujours eu. Ça fait partie de la démagogie politique, obligatoirement.
Exactement. Mais, les Grecs en étaient les premiers, les Romains aussi.
Mais si vous voulez, dans ce livre, ce que je dis d'abord, c'est que le critère de l'histoire n'est pas la révolution. Parce qu'on apprend aux enfants qu'on a la liberté, l'égalité, et blabla, depuis la révolution. Et d'abord, ce n'est pas le critère de l'histoire. Il y a des civilisations antérieures, vous venez d'en évoquer une, la Syrie, la Perse. Ah, si l'Iran était la Perse, malheureusement. Et le critère de l'histoire, c'est le temps linéaire. Dans les civilisations anciennes, le temps était considéré de façon cyclique. C'est notamment dans les sociétés agricoles. Alors ça a des incidences très très importantes. Parce que ce que je dis, ça semble comme ça lointain, mais par exemple, dans ces sociétés cycliques qui étaient des cultes de la terre-mère, on sacrifiait des êtres humains.
Mmh. Oui, oui, oui.
Et le temps linéaire, donc la conscience du temps linéaire, c'est la Genèse, c'est-à-dire c'est la religion de la Bible. Mmh. Donc si vous voulez, la religion de la Bible change totalement la façon de penser. Et avec évidemment à son sommet l'incarnation du Fils, donc la révélation, ce ne sont plus des prophètes qui parlent au nom de Dieu, c'est Dieu qui parle lui-même, si on est croyant. Et ce que je demande aux gens, c'est d'envisager l'hypothèse. Je pose l'hypothèse, Dieu existe, et le Fils est le Fils de Dieu, et le Christ est le Fils de Dieu. Et on voit ce qu'il dit, on cherche à comprendre ce qu'il dit. Et ça change complètement la vision de l'histoire. L'histoire, il faut qu'elle ait un commencement. Vous avez parlé du marxisme. Le marxisme se conçoit avec une éternité de la matière, c'est-à-dire avec un renouvellement cyclique.
C'est
d'ailleurs
parce que on retrouve ça chez Nietzsche, avec l'éternel retour.
Mais l'éternel retour qui va atteindre les nazis, c'est exactement. Et qui est aujourd'hui à la base du mondialisme. On doit rejoindre le grand un. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans des discussions métaphysiques, mais que les auditeurs sachent que j'essaye d'expliquer tout ça dans le déroulement de l'histoire avant les temps chrétiens. Mais ce que je veux dire sur les mensonges de l'histoire actuelle, alors ce n'est pas la Révolution, c'est avant la Révolution, c'est surtout l'encyclopédie invente et qui invente des mythes.
Alors, par exemple, le bon sauvage.
La bonté naturelle
de l'homme.
Beaucoup de mythes anti-chrétiens, anti-catholiques, qui sont des mensonges historiques.
Et hontés. Pouvez-vous donner quelques exemples
Tuez-les tous,
Dieu
ça n'a jamais été dit par Simon de Montfort, c'est une invention.
Ah, c'est Simon de Montfort qui aurait dit ça.
Mais non, justement.
Il ne l'a jamais dit.
Voilà. Et pourtant, elle tourne de Galilée, il ne l'a pas dit, etc. Ce sont une accumulation de mensonges, et ils vont toujours dans le même sens.
Oui, d'ailleurs, s'ils n'ont
accusation
pas de pain,
d'intolérance.
S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Ça aurait dit mon Marie-Antoinette, ce qui n'était pas vrai, ou du moins ça a été déformé. Parce qu'un jour, on lui a dit, écoutez, il n'y a plus de pain pour les domestiques. Eh ben, elle a dit qu'on leur donne de la brioche.
Oui, ce qui est possible.
C'était
ça.
Oui. Et c'était mieux pour eux. Après tout, c'était un acte de générosité. Et ça a été inversé. Alors, il y a des questions, excusez-moi, cher ami.
Je voulais juste
des questions d'auditeurs.
Alors, un auditeur nous dit, lors d'un salon consacré à la franc-maçonnerie, un représentant de la Grande Loge de France m'a expliqué son obédience, que son obédience était une force de proposition ouverte à tous, sauf le RN.
Ah oui, bah, oui.
En revanche, la Grande Loge française est plus ouverte et leurs travaux sont consacrés à la spiritualité et la tradition symboliste.
C'est faux.
Ah bon.
Mensonge.
Bon.
Un autre auditeur nous dit, cher Olivier, toutes les francs-maçonneries ne sont pas identiques, dites-vous, mais elles ont un point commun qui, quelle que soit l'obédience, est insupportable, c'est le secret.
Ah oui, c'est
non.
Assez...
Alors, je vais vous surprendre.
Oui.
Et on me l'avait reproché quand, du fameux livre d'il y a 30 ans sur la trahison des initiés.
L'intervention de l'auditeur qui dit, c'est contraire à la parole du Christ, la vérité nous rendra libres. Voilà, bien à vous et merci à votre
invité. C'est vrai qu'il y a
quand
même un culte, c'est une société secrète.
Oui, mais...
Il a raison, l'auditeur, de dire ça.
Alors.
D'abord, l'initiation, puisque c'est,
ça aussi,
elle
c'est
se prétend une société initiatique,
oui. Voilà,
et non pas une mafia. Malheureusement, cette société, moi
je la
dénonce parce qu'elle est devenue une mafia politique.
La mafia aussi est une société initiatique.
Voilà, mais donc la franc-maçonnerie est une société initiatique et elle peut avoir un secret.
Oui.
Le problème, c'est comme elle intervient dans la société et qu'elle, malheureusement, elle a un rôle très néfaste, hein, notamment pour la France. J'estime que de l'extérieur, on a le droit de savoir pourquoi elle agit comme cela.
Mmh.
Et c'est là où on rejoint la guerre de religion. Dire qu'ils tolèrent les chrétiens, c'est vrai, mais à condition que les chrétiens ne soient pas catholiques au sens pur, c'est-à-dire qu'ils renoncent à dire que la vérité a été dite par le Christ. Pour eux, toutes les vérités sont relatives.
Oui,
alors ça, c'est une absurdité.
Mais alors attendez,
parce
que les protestants...
Je voudrais quand même dire là-dessus, monsieur.
Attendez,
le relativisme religieux n'existe pas.
Oui.
Alors, ça lie à la franc-maçonnerie. Aucune religion, quelle qu'elle soit, n'est identique aux autres. Donc, il n'y a pas de vérité relative. Il y a une vérité qui, pour moi et pour les chrétiens, est la parole du Christ, et des erreurs. Mais elles peuvent avoir des apparences de vérité, mais ça n'est pas la vérité. Et ça, les francs-maçons n'admettent pas que le catholicisme prétende détenir la vérité. Et j'insiste encore là-dessus, parce que ça va aussi rejoindre Girard, ils n'admettent pas qu'il n'y ait pas d'ésotérisme chrétien. Ils prétendent être des ésotéristes chrétiens, mais l'ésotérisme chrétien n'existe pas, c'est un mensonge historique. Il n'y a pas d'église de Jean. Ils prétendent descendre de l'église de Jean. Il n'y a pas historiquement d'église de Jean. Donc, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Et tous les ésotéristes chrétiens ont toujours été condamnés par l'église. Donc, c'est une fausse tolérance.
Mais
on vous tolère comme catholique à condition que vous soyez plus catholique.
Alors, moi, j'ai une question à l'avocat, l'avocat que vous êtes. C'est-à-dire que la parole de Dieu, hein, donc la parole divine, qu'elle soit dans la Bible, les paroles du Christ, elles sont comprises, entendues, interprétées différemment, même au sein des chrétiens, pour parfois d'ailleurs être comprises de façon complètement différente. Donc est-ce que c'est la religion ? Est-ce que
Il y a une autorité légitime, c'est l'Église. Elle est fondée par les apôtres, c'est historique, et elle reçoit le Saint-Esprit. On y croit, on n'y croit pas, ça c'est un autre sujet. C'est elle l'autorité. Donc, c'est ce qu'on appelle... vous avez deux piliers au catholicisme. Vous avez l'écriture, mais vous avez aussi la tradition. La tradition, c'est l'interprétation. Donc, on n'a pas à inventer chacun sa propre religion. Il y a une interprétation qui a été faite par les théologiens compétents.
Ouais,
et les gens qui ont...
On aura du beau jeu de vous dire qu'il y a eu des schismes dans l'Église.
Mais
des traditionnalistes, Monseigneur Lefebvre... bien d'autres, et que quand on voit certains papes et les déclarations ahurissantes de certains papes, on finit par se poser vraiment des questions sur savoir s'il y a un magistère moral. Alors moi, je peux critiquer l'Église catholique, puisque je suis protestant, et d'ailleurs, on nous dit, dans la religion protestante, que faut aller voir la parole de Dieu lui-même, c'est-à-dire la Bible. Mais bon, disons que je vous trouve un peu dur avec les protestants, d'ailleurs, c'est le bémol que j'ai eu. Hein, vous les traitez presque plus mal encore que les juifs, ce qui n'est pas peu dire. Et d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans les pays alémaniques, comme on dira en Suisse, on nous explique tout l'inverse, c'est que tout est de la faute des catholiques et que les révolutions ont été faites par les catholiques et eux, protestants, eux, ils se sont bien gardés de se lancer dans des aventures pareilles.
On va reconnaître deux
choses. Alors c'est vrai que Che Guevara et Fidel Castro n'étaient pas protestants. Bon.
Ils ne sont pas catholiques non plus.
Oui, ils n'étaient pas très catholiques non plus, je suis d'accord avec vous.
sont des assassins.
Oui, c'est une évidence. Voilà, mais on trouve quand même plus de haine et d'esprit revanchard et de jalousie dans les peuples catholiques que dans les peuples protestants.
Bon, sur quoi élaborez-vous ça? Mais enfin,
sur la constatation quotidienne.
Je n'y crois pas trop. Mais l'Église est en crise. L'Église aujourd'hui est en crise. Moi, je suis un traditionnaliste. Oui. Donc, je suis pour que la tradition reprenne sa place dans l'Église. Il y a eu un immense problème. Vous savez que le moderne, ce qu'on appelle le modernisme, a été condamné par le pape au début du XXe siècle. Il y a des événements qui font que l'Église actuelle est en crise. Donc ça, c'est... J'ai l'habitude de dire que je suis œcuménique avec tous les catholiques, c'est-à-dire que j'ai même ouvert une chaîne ce qu'on appelle des CD vacantistes, c'est-à-dire qui ne reconnaissent plus l'autorité du pape.
Oui.
Alors, on a beaucoup de problèmes.
Oui.
Mais c'est un peu lié à une protestantisation de l'Église.
Ah.
Alors, sur le protestantisme lui-même, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La réforme, cette révolution ».
Oui, oui.
Vous pourrez lire.
Oui.
Parce que ce soit Luther et Calvin particulièrement, bon, Luther, il y a une sorte de naïveté de Luther, il n'y a rien de bon dedans. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent est faux sur un plan théologique. Donc, le plus grand problème du protestantisme, c'est justement de se couper de l'autorité. C'est de dire chaque individu va pouvoir inventer sa propre religion.
Oh, pas vraiment, parce qu'il faut quand même.
C'est l'interprétation individuelle.
Enfin, il faut on parle de la Bible quand même.
Mais oui, mais
il y a la foi.
Luther la falsifie.
Ouais.
Luther...
Alors attendez, il y a un Bobino qui doit passer.
Oh là là, c'est pire. On va revenir là-dessus.
C'est pire que Luther encore.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, je reprends, parce qu'il n'y a plus d'autres questions d'auditeurs, mais on va revenir à des choses plus concrètes. Et puis après, on va appeler notre invité, Wilhelm Bauer, juriste franco-suisse, qui va peut-être répondre, parce qu'il s'est intéressé, lui, c'est un intervenant sur Radio Courtoisie, il s'est intéressé aux francs-maçons. Et ça, je suis sûr que ça, cette émission le passionne et on doit l'appeler. Alors, il y a quand même une question que je voudrais vous poser, puisqu'on en revient aux mensonges historiques. Quels sont les grands mensonges historiques que vous relevez depuis quelques siècles?
D'abord, il n'y a pas de Moyen-Âge.
Oui.
C'est peut-être l'un plus grand mensonge, c'est l'invention d'un Moyen-Âge.
Oui. Oui.
Il n'y a pas de Renaissance, la Renaissance est une imposture.
Qu'est-ce qui forme? La plupart des gens ne savent pas d'ailleurs où est la frontière. Alors c'est la chute de Constantinople. C'est la prise de Constantinople par les Turcs en 1573, quelque chose comme ça.
C'est très bien, vous avez dit chute. Mais si vous ouvrez un livre d'histoire qu'on donne aux écoliers, c'est prise. On marque la prise de Constantinople.
Et c'est la chute de l'Empire d'Orient.
Oui, mais pour un chrétien et un Européen, c'est une chute, c'est une perte.
Parce que
l'Empire d'Orient protégeait aussi l'Europe des invasions.
Voilà. Évidemment.
Bien sûr.
Donc l'Empire d'Orient tombe, et ce n'est en rien, je ne vois pas en quoi il y a une renaissance.
Mais elle n'existe. Alors en plus, 1453, parce que c'est 1453, il ne se passe sur un plan culturel rien.
Non, rien du tout.
C'est la fin de la guerre de 100 ans, mais voilà, il ne se passe rien sur un plan culturel.
Il faut prendre... allô ? Allô, est-ce qu'on entend? Non, personne. Bon, vous me ferez signe quand ça... Oui, il ne se passe rien, et d'ailleurs le Moyen-Âge
commencerait, si vous voulez, à la chute, quand les barbares étaient des Germains,
la chute de Rome.
Mais en fait, il y a 20 ans, ça dure 20 ans, mais tout de suite après, il y a de nouveau une culture, et pendant le pseudo-Moyen-Âge, les monastères ont la culture grecque,
l'art gothique, oui, bien sûr.
Il y a d'ailleurs des renaissances de l'Antiquité païenne.
Du tout, on dit gothique à tort.
Parce que c'est ogival, c'est français. On devrait parler d'art français, parce que ce sont des cisterciens français, d'ailleurs, qui ont ancré l'Europe au ciel, et donc il est aussi assez symptomatique que la flèche de Notre-Dame de Paris est brûlée, ça veut dire la France n'est plus ancrée au ciel, la France ne mérite plus.
Oui, mais ils l'ont remplacée, ça y est, elle a été refaite. Là.
Mais il y a un grand remplacement de la flèche, c'est pas tout à fait la même.
C'est pas tout à fait la même, enfin, je veux dire, esthétiquement, elle me semble...
Il faut bien être hypocrite.
Il faut bien
lutter contre...
Vous trouvez beaucoup de différences, vous, avec l'ancienne?
Il y en a à l'intérieur sur le...
Mais vous avez remarqué des détails?
Non, c'est pas mon sujet.
Oui, d'accord, c'est un détail, comme on dit Jean-Marie Le Pen. Bon, Mais alors, donc il y a voilà des grands mensongeurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Et par exemple, voilà, donc en 1453, rien ne se passe. La Renaissance, ça n'existe pas. L'autre grand mensonge, c'est les Cathares, par exemple.
Ah, les Cathares. Jean-Louis Harwell les traite, les Cathares, c'était de terribles gnostiques, ces gens-là.
Oui, c'est dans la gnose. Et en plus, absolument. Ce sont des socialistes, ce sont les premiers socialistes. Ils sont en train de faire une sorte de révolution.
Tout à fait, juste.
Ce sont des commerçants assez riches pour les chefs. Et qui exploitent le peuple. Oui. Et si vous voulez, ils mettent en cause. Alors, ce n'est pas une défense des serfs. Par exemple, l'histoire officielle dit que les Cathares défendent les serfs. Non. Et on a aussi cette invention de la papauté qui aurait massacré les Cathares, victimes. Oui. Mais non. D'abord, les Cathares. La papauté envoie des prédicateurs. Hein, c'est pour ça qu'il y a des dominicains. Et en fait, c'est le roi de France qui mène la croisade, notamment contre les Albigeois. Parce que le Midi est à feu et à sang.
Ah oui.
Et qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors évidemment, c'est une guerre pour rétablir la paix et en éviter le socialisme.
Oui.
Parce que les Cathares sont les premiers socialistes.
Mais oui, mais les collectivistes.
Je ne vais pas être gentil avec vous parce que c'est aussi les ancêtres des protestants. Oh, écoutez, parce qu'ils refusent les sacrements de l'Église.
Oui, mais on a changé, nous. On est protestants très.
Les Vaudois.
Voilà. De toute façon, nous, on est protestants dans la famille de manière tout à fait.
Mais chacun est dans sa propre religion.
L'important, c'est que les Tours d'Afon ne sont pas protestants.
Moi, je cherche
catholiques. Ils le sont devenus par des hasards de mariage. Mais par contre, les Delamain, eux, étaient protestants. Kaiserling, il était catholique.
Non, il était protestant.
Protestant. Oui.
Mais ce n'est pas la question. La question, même des musulmans peuvent se convertir.
Bien sûr.
Alors, c'est très difficile pour eux, mais il y en a.
Oui, et c'est dangereux en même temps.
C'est dangereux parce que, voilà. Mais pour leur âme, c'est possible. Moi, je n'empêche pas les musulmans de se convertir.
Bien sûr.
À ce moment-là, pour moi, ils deviendraient des Français de conversion. Mmh. Alors, ce que je voudrais dire sur la France et la franc-maçonnerie, c'est que quand j'étais sur mes francs-maçons dans ce fameux procès. Ouais. Dans un des deux, il y a Charles Hernu. Hein. Oui. Et s'il n'est pas condamné, moi je suis viré du dossier, mais lui, il n'est pas condamné, et il devient ministre des armées.
Ouais,
donc, si vous voulez, s'il avait été condamné, il n'aurait pas été. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. En 1981... Mmh. Le Grand Orient dit « Nous sommes au pouvoir ». Il l'écrit dans les journaux.
Vous l'avez dit dans votre intervention.
Et puis je donne dans mes livres, pas dans celui-là, mais dans mes livres, je donne les textes. Bon. Et en 1981, vous avez 70% de catholiques en France. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous en sommes à 30%.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que ça n'est pas une déchristianisation ?
Bien sûr.
Je suis aussi un adversaire des droits de l'homme.
Mais ça, personne ne le nie.
Les droits de l'homme ont déchristianisé le monde. Pourquoi ? Parce que justement, l'homme à la place de Dieu.
Ça, c'est une évidence.
Donc, c'est la gnose. Donc, moi, j'ai décrit le parcours de la gnose jusqu'à la déclaration des droits de l'homme et jusqu'à aujourd'hui.
Mais ça, vous avez.
Il y a une incidence.
Évidemment.
Alors, tout est religieux.
C'est ce que dit. Mais ça, ce que dit. D'ailleurs, rappelez-vous que Jean-Louis Harwell, à l'occasion d'une émission il y a quelques années avec Catherine Auvier, a dit Catherine, nous sommes en pleine guerre de religion et vous ne vous en rendez pas compte.
Absolument. L'histoire est religieuse.
Et aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez pas aborder parce que non seulement vous serez rejeté, insulté, menacé et traîné devant les tribunaux. Et alors, il y a de nouveau des questions d'auditeurs. Tiens, ça va être intéressant. Et il y a des mensonges contemporains. Il y en a eu beaucoup autour du Covid, énormément. Puisqu'on a vacciné les gens de force, quand même, ou par chantage. Et il y a des mensonges autour de l'évolution du climat, puisque je vous rappelle qu'il y avait même une proposition de loi, mais je ne crois pas que ça ait abouti, finalement. Ça n'a pas abouti. Qui visait à créer un délit d'opinion nouveau, parce qu'il y a plein des délits d'opinion. D'ailleurs, Zemmour n'a pas tort quand il dit dans le suicide français que depuis 1972, on crée tout le temps des délits d'opinion. Là, le simple fait de remettre en question publiquement le rôle de l'homme dans le réchauffement du climat était passible des tribunaux. Rappelez-vous, cette proposition de loi, je crois qu'elle n'a pas abouti, elle s'est perdue dans les sables. Parce que c'était aller un peu loin quand même, il aurait peut-être été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que la religion climatique est en train d'être une nouvelle forme d'obscurantisme, parce qu'on crée l'éco-anxiété chez les gens, et pendant ce temps-là, ils ne voient pas le reste. Et ils voient plus l'immigration, ils voient plus le contrôle social, ils voient plus la perte de pouvoir d'achat, ils voient plus la fiscalité confiscatoire, parce qu'on leur dit des réfugiés climatiques vont déferler par millions sur vos côtes. Alors c'était d'ailleurs ce qu'annonçait le journal suisse Le Temps, le journal Jeune Voix. les réfugiés climatiques arrivent. Alors, on voyait un homme en haillons qui sortait d'une mer déchaînée, et il était bien sûr issu de l'immigration, hein, comme on peut l'imaginer, c'était pas un barbare blond. Et ils seront bientôt des milliards, titrait le journal Le Temps en gros titre, comme le dit Christian Gérondeau. J'ai pas encore rencontré de ma vie un seul réfugié climatique, mais des réfugiés économiques, j'en rencontre à tous les coins de rue. Mais les réfugiés climatiques, je sais pas où ils sont. Bon, alors là, on essaye de créer, et d'ailleurs j'ai eu une controverse avec notre ami qui n'a pas intervenu encore, avec un étudiant qui lui parle de son éco-anxiété, vous avez vu ce que j'ai répondu, et notre ami dit « Ah bah, il faut tenir compte des normes climatiques ». Mais je dis « Non, il n'y a même pas de normes climatiques ». Parce que c'est totalement absurde de parler de normes climatiques. Est-ce que la norme climatique est bien respectée sur la Lune ou sur Mercure? Ou sur Mars? Et sur Vénus? Alors, la norme climatique, elle n'est pas respectée sur Vénus, hein. Il fait sacrément chaud, c'est un vrai enfer. Alors, est-ce qu'on peut pas lire la question de l'auditeur?
Alors, notre auditeur nous dit « Sur l'interprétation de la Bible par les protestants, il existe notamment aux USA des centaines de sectes protestantes, oui, toutes nées de schismes entre elles, qui diffèrent sur des points fondamentaux, sacrements, salut, etc., oui, oui. et disent toutes avoir discerné la vérité oui. avec l'aide du Saint-Esprit. Mm-hmm. Relire à ce sujet Bossuet, Histoire des variations oui. des églises oui, protestantes, oui. tout y est. »
Non mais je me demande... Le Saint-Esprit est univoque, il ne peut pas oui. être multivoque, il ne peut pas se contredire. Donc alors, c'est oui. l'esprit humain qui pense être inspiré par le oui. Saint-Esprit. Mmh. On assiste d'ailleurs aujourd'hui, il y a dans l'homme une quête de spiritualité, mmh. mais aujourd'hui on assiste, comme au temps païen d'ailleurs, avec les démons, par les idoles, alors ce n'est oui, pas oui, les mêmes idoles, oui, mais oui, c'est les idoles ouais. de la chanson ou du football, mais on assiste à un détournement de la quête de spiritualité ouais. vers le diable, notamment par la magie. Oui, oui. Le premier gnostique, celui qui fonde la première secte gnostique, qui est d'ailleurs une secte des Illuminés, s'appelle Simon le Magicien.
Oui.
Et Simon le Magicien, c'est la magie, c'est, aujourd'hui c'est Halloween.
Oui, oui, c'est vrai, ça a beaucoup de succès.
Etc. Donc nous sommes vraiment dans une guerre de religion.
Il y a une inversion.
Mais toute l'histoire est religieuse, ça aussi c'est très important, l'histoire n'est pas politique, l'histoire est d'abord religieuse, la religion a une incidence sur la philosophie, qui elle-même a une incidence sur le politique. C'est comme ça avant le christianisme. C'est-à-dire oui, oui. qu'en Chine, il y a le Tao chinois. Hein. Je parlais du oui. Tao chinois, c'est le yin, le yang, c'est le masculin oui. et le féminin. Ils sont dans une révolution oui, oui. circulaire. C'est aussi le Confucius, c'est l'ancêtre mmh. du communisme. Hein. Mmh. Tout ce que j'écris dans mes livres, évidemment, rejoint l'actualité. Et vous avez parlé de l'écologie, je pense aussi au temps. Alors en Grèce, c'est pareil, hein, c'est Zeus, il n'y aurait pas de philosophie sans Zeus, sans le Panthéon, même s'il nie le Panthéon. Et c'est pareil dans les temps chrétiens, le politique est tierce par rapport au religieux. Et il y a, j'insiste dans un... Alors j'ai aussi deux livres qui sont sur l'intelligence du christianisme, dans le tome 2 notamment, sur ce qu'apporte sur un plan sociétal le christianisme, la liberté humaine,
ouais,
par l'incarnation,
c'est
déjà important.
C'est ce que dit Harwell également.
Mais c'est, parce que c'est un historien,
et le développement
même s'il n'est pas chrétien.
Et c'est le développement économique.
Et oui, et puis c'est la fin de l'esclavage.
Et c'est ce qu'il dit.
C'est la fin de l'esclavage.
Ce qu'il dit.
Parce que quand saint Paul dit voilà, il n'y a c'est... plus ni maître ni oui, esclave, oui, oui. et c'est à ce moment-là que beaucoup de commerçants... et des gens qui tiennent l'économie sous l'Empire vont devenir anti-chrétiens parce qu'ils vont perdre leur argent.
Et puis leur main d'œuvre.
Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et leur main d'œuvre gratuite.
Exactement.
Je suis contre l'immigration, vous en doutez bien.
Bien sûr.
Mais les immigrés sont les esclaves du mondialisme.
Mais c'est une évidence.
On les importe, hein. J'ai dit, on les importe comme des produits. Et ça fait baisser les salaires des Français.
Bah, évidemment. D'ailleurs, c'est ce que disait Georges Marchais dans les années 70. À l'époque, il était encore très lucide, et parce que ce que montre Jean-Louis Harwell, c'est que la pensée révolutionnaire, gnostico-millénariste, se déplace comme des cercles concentriques quand on jette une pierre dans un étang. Vous avez une première vague, c'est le démocratisme, le républicanisme, et puis vous avez une deuxième vague, c'est le socialisme, la lutte des classes, prolétariat, machin, Marx, etc. Puis vous avez une troisième vague, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté, c'est mai 68. Et puis vous avez quatrième cercle concentrique, c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde, c'est le migrant qui est le nouveau rédempteur. Et parce que nous sommes méchants, nous les Blancs. Et puis maintenant, après, il y a encore une cinquième vague, c'est les femmes, les féministes, elles sont victimes de la société patriarcale et capitaliste. Et puis alors vous avez une autre vague encore, c'est la Terre elle-même est victime de l'homme blanc méchant, parce que l'homme blanc méchant la détruit. Bon, et alors la Terre, alors ça donne l'écologisme punitif, et l'écologisme fanatique.
Et l'écologie est un culte de la Terre-mère.
Exactement.
Donc c'est, c'est un retour au primitif, donc c'est sur les mêmes sujets.
C'est exactement
mais
ce que
je pense qu'Harwell, il a une bonne
Il a une excellente vision.
Alors ouais. Je souhaite qu'il considère le christianisme différemment que d'un simple vue extérieure, si je peux m'exprimer.
Alors, l'idée,
c'est son problème.
Oui, alors l'idée d'Harwell dans Le vrai génie du christianisme, oui, c'est qu'il dit que
la séparation du politique et du religieux
a permis une émancipation intellectuelle, technique et économique qui a sorti l'humanité d'une misère chronique et d'un sous-développement endémique.
Oui, mais il y a un développement des sciences.
Parce que le
Christ met fin à la magie. Alors, dans les évangiles, vous avez des scènes qui sont plus ou moins symboliques, si on veut dire. Mais les rois mages viennent s'incliner devant le divin enfant. Bon. Je ne vais pas dire que... Alors aussi, des gens ont cherché s'il y avait une étoile. Hein. Ce n'est pas la peine, hein. Ça peut être symbolique. Hein. C'est la lumière, hein. Ce n'est pas très compliqué. Mais ça veut dire que les mages, c'est terminé. La science, la magie... Parce que la magie, c'est la pire des sciences occultes. Et elle est vraiment diabolique. Et la magie, c'est terminé. Donc, il y aura des mages. Tous les mages sont des ennemis du Christ. Vous avez en France le Fèvre d'Étaples, par exemple, l'humaniste Le Fèvre d'Étaples, c'est le Cénacle de Meaux. Ce sont des mages. Hein, ils considèrent. Et nous en sommes aujourd'hui à Halloween.
Oui, c'est juste. Enfin,
et les sorcières sacrifiaient des enfants.
Mais les sorcières sont bien vues dans l'inconscient collectif.
Donc, la Terre-mère, attention, c'est dangereux. Les cultes anciens sont dangereux parce qu'il y a des sacrifices qui sont suivis. Et un mot quand même sur la femme, sur le rôle de la femme et le christianisme, parce qu'on accuse le christianisme d'être patriarcal.
Oui.
Alors d'abord, ceux qui disent ça confondent le patriarcat dans le droit révolutionnaire, c'est-à-dire le droit romain, et le patriarcat au sens, il y a le sens juif et le sens chrétien. C'est le même, sauf qu'avec l'incarnation, il y a une considération différente du patriarcat. Et le roi était le père du peuple, en fonction de l'incarnation. Quand Louis XVI est sacrifié, alors Louis XVI, la République est proclamée illégalement d'ailleurs, ce que j'explique dans mon livre, puisque c'est où tu votes la République, on te coupe la tête,
c'est
toujours la même chose.
C'est un coup d'État.
Mais ensuite, le roi, il est sacrifié. C'est le meurtre fondateur des temps modernes.
On est d'ailleurs, j'ai une théorie que j'ai souvent exposée sur cette antenne, c'est pourquoi est-ce que toutes les républiques finissent mal en France? Et toutes, sans exception. Hein.
Oui.
On peut prendre la liste, celle de la cinquième, elle finit très très mal.
Elle
va finir très mal. C'est qu'elles sont entachées par un crime originel qui est l'assassinat du roi qui représente Dieu sur Terre. C'est une sorte de malédiction durable.
C'est une apostasie de la France.
Et c'est effrayant parce que tant que la France n'aura pas abandonné cette funeste doctrine, tout ce qu'elle fera finira mal. Et ça a été une catastrophe. Toutes les républiques ont été des bains de sang, finalement.
La France doit redécouvrir son passé catholique. Je ne demande pas aux gens de devenir catholiques. J'espère les convaincre en provoquer des conversions. Mais c'est pas ça. Reconnaître que la France a été un pays catholique, c'est notre histoire, c'est notre identité.
C'est une réalité.
C'est une réalité. J'ai pas fini de répondre sur la femme. Pardonnez-moi, mais j'y tiens beaucoup.
Il y a une femme qui cherche.
Oui,
à parler,
justement. Mais je vais lui donner après. Mais je vais quand même dire ça. Le plus beau rôle de la femme, c'est de mettre un enfant au monde. Donc l'avortement est un crime, y compris contre la femme. Hein. Le féminisme est anti-féminin. Et le christianisme donne à la femme un rôle éminemment supérieur à toutes les autres religions. La Vierge Marie est la mère du Sauveur. On ne peut pas donner un plus grand rôle à la femme.
Évidemment, c'est
très féminin est honoré dans la religion chrétienne.
Ab initio. Exactement.
Par rapport à ce que vous disiez sur la France et le christianisme, finalement, on le voit. Maintenant que la France est déchristianisée, la France est en train de disparaître parce que la France est sans le christianisme, il y aurait jamais eu de France.
On revient à la loi du plus fort.
Voilà. C'est le christianisme qui a construit la France, historiquement parlant.
Oui, elle s'est construite, on va dire,
la nation. Alors, c'est le baptême de Clovis, est chrétien. Mais c'est très important, parce que Clovis, vous savez que c'est un hérétique arien, avec un il vint les ariens, c'est-à-dire il y a un rôle politique. Il se convertit, je ne vais pas raconter, il y a le baptême de la France. Et vous avez donc, je n'ai pas discuté ça avec Harwell, mais il faudra que j'en discute. Vous avez donc deux conceptions du nationalisme. Vous avez un nationalisme traditionnel, et vous avez le nationalisme révolutionnaire qui est mis en place par Sieyès dans le fameux tiers-état. Et le tiers-état, exclut de la nation deux ordres, c'est-à-dire les nobles et le clergé, oui, mais qui sont des êtres humains. Évidemment. Donc le tiers-état, la conception du tiers-état de la Révolution crée un nouveau nationalisme qui provoque la mort, parce que la mort effective, hein, ah bah il y a 600 000 morts.
600 000 morts,
oui, ah oui, oui, dont 50 000 enfants, hein, ce qu'on oublie souvent.
Et on met la Vendée dedans avec la Vendée, oui. C'est beaucoup. Mais c'est pour beaucoup. L'époque, c'est beaucoup.
Oui, oui. Et je voulais dire... Ah oui, le nationalisme révolutionnaire détruit le nationalisme traditionnel chrétien, catholique. Mmh. Et la Révolution va donc promulguer la Déclaration des droits de l'homme dans la même année, qui est l'homme qui prend la place de Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est que ce sont les droits de l'homme, avec un grand H, et du citoyen.
Oui, exactement.
Donc le citoyen n'est pas l'homme. Liberté, égalité, fraternité, c'est pour ceux qui ont reçu la lumière, c'est-à-dire ceux qui sont libérés, entre guillemets, du catholicisme. Donc, vous avez deux conceptions différentes. Et on dit très souvent dans les livres d'histoire que la nation française commence avec la Révolution.
Non.
Non.
C'est complètement faux.
Et Bossuet emploie le mot nation,
oui,
un siècle avant.
Bah, évidemment.
Donc, mais oui, mais vous le savez.
Oui, bon.
Mais très souvent dans les livres, et ce qu'on enseigne aux enfants, particulièrement sur la Révolution, c'est un tissu de mensonges.
Oui, c'est une évidence. Alors, est-ce que vous avez identifié d'autres mensonges planétaires, par exemple au 19e, au 20e siècle, qui méritent d'être...
Ben déjà, c'est de dire que la Révolution a accordé la liberté.
Oui.
La liberté, elle vient du fait de l'incarnation. C'est-à-dire que si on a... La liberté n'est pas naturelle.
Mmh.
Vous avez le droit naturel. La Révolution vient du droit naturel, dans le sens où le droit naturel nie la surnature. Mmh. C'est un droit qui refuse la divinité, qui refuse le divin. Mais dans la nature, il n'y a pas de liberté. Dans la nature, tout est contingent.
C'est absolument exact. C'est ce que dit Charles Maurras, d'ailleurs.
Oui.
Il dit quelle est la liberté d'un nouveau-né ? Elle n'existe pas. L'homme, il dit, s'il y a bien un être qui ne naît pas libre, c'est l'homme.
Ouais, et pourquoi sommes-nous libres ? Parce que nous avons une âme,
ouais,
et que notre âme est une faculté de penser. Et ce que dit la Bible, c'est que notre âme est à l'image de Dieu. Donc, si nous avons une faculté de penser, c'est parce que Dieu nous a dotés d'une âme. Bon. Et une âme unique, évidemment, ce n'est pas une âme de l'humanité. Et si on nie ça, on n'a pas de liberté naturelle. Et l'histoire le démontre.
Oui, oui.
Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre liberté. Vous avez donné suffisamment d'exemples. Et on va vers un mondialisme, vers une dictature numérique notamment, au nom de la science. Oui. Donc, la science est détournée de son but qui devrait être le bien de l'humanité, et nous allons vers un gouvernement mondial, vers une dictature mondiale, au nom de la liberté révolutionnaire.
En ce moment, on s'en prend pas.
Ça veut dire que le langage est à l'envers, le langage est une inversion. Le langage moderne est une inversion.
On a vu d'ailleurs, j'observais que tout à l'heure, que quand on utilise le terme, en parlant d'une femme par exemple, on dit c'est un démon, c'est flatteur, c'est une sainte, c'est plutôt rébarbatif. Tout est ainsi. Le mal se vend bien, le bien ne se vend pas, le bien se vend mal, le bien n'attire pas les gens, ça les ennuie, les vies des saints, ça les intéresse pas, hein. Par contre, la vie de tel ou tel grand criminel, là, ça les passionne. Non, mais le monde moderne utilise beaucoup les mauvais instincts. Moi, je dis que le monde moderne, il est orienté vers deux grands pôles, c'est bons sentiments et bas instincts.
Le sentiment bon peut sentiment, être détourné.
Bon sentiment, et c'est l'inversion d'ailleurs de la phrase qu'on attribue à saint Augustin, qui a dit « primum veritas, deinde caritas ». Primum veritas, d'abord la vérité, deinde caritas, ensuite la charité. Bon. Mais dans le monde moderne, vous avez remarqué que partout, dans les médias, grand public, grand média de grand chemin, comme on dit, c'est l'inverse. C'est primum caritas, d'abord les sentiments, les bons sentiments dégoulinants, humains, etc., la sensiblerie, et ensuite deinde caritas, bon, après on regarde plusieurs années ou plusieurs mois après, si c'était vrai, ah bah non, c'était pas ça du tout, finalement c'était un montage, ah bah oui, non, ça ne s'est jamais passé comme ça.
Le diable connaît la faiblesse humaine, ah, c'est pas d'aujourd'hui,
donc, voilà, c'est du non-servir. C'est très important, primum veritas et deinde caritas, ça me semble, c'est une phrase magnifique. Hein. D'abord la vérité, ensuite la charité.
C'est
pas l'inverse.
C'est la vérité philosophique, elle est dans la scolastique. Une notion, vous avez parlé d'inversion, le langage moderne, la philosophie moderne, hein, est une inversion. Alors c'est de la faute de Descartes, c'est pour ça que je suis anti-cartésien. C'est qu'il prend le langage, c'est ma démarche. Hein. Pour moi, le monde moderne échoue. Retourne au primitif. Plus on parle de progressisme, plus on régresse. Il y a une décivilisation. Ouais. Le langage se réalise à l'envers de ce qu'il dit. Nous sommes emmenés vers un mondialisme au nom de la liberté.
Oui, c'est vrai. Je vous remarquais qu'en ce moment...
Attendez. Oui. Donc, la philosophie moderne se trompe. C'est ce que j'appelle l'échec moderne. Je l'argumente dans chacun de mes livres. Donc, et qu'est-ce qu'est la philosophie moderne? C'est l'inversion de la philosophie chrétienne. C'est l'inversion de la scolastique. Donc, la vérité doit se trouver dans le christianisme, puisque la négation du christianisme produit des monstruosités.
Oui, c'est très juste, oui. Mais d'ailleurs, je disais, Jean-Louis Harwell, la meilleure preuve de l'existence de Dieu, c'est qu'il est extrêmement facile d'identifier le diable pratiquement à tous les coins de rue. Donc, si le mal existe, par contre-type, le bien existe aussi. Et ce ne sont pas des vues de l'esprit, ce ne sont pas des visions relatives.
Non, c'est une réalité.
Il y a le diable étant le négatif de Dieu, si on rencontre le négatif partout, c'est que le positif existe aussi.
Le diable part tous les jours à la télévision, les gens devraient se poser la question, et si Dieu existait, et si le Christ était le Fils? Il y a aussi une question, il a vécu le Christ, hein, contrairement à
ce que pense...
Et moi je dis aussi souvent ça aux gens, je leur dis mais... Est-ce que vous pensez que les apôtres, qui ont vécu aussi, on sait qu'ils ont fondé l'Église, alors à Rome, on considère que c'est une secte juive, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des différences. Mais là, les historiens sont formels, même les historiens païens. Voilà. Et puis je dis à ceux qui le nient, vous pouvez aussi lire le Talmud, ils se vantent de l'avoir remis à mort. Donc c'est que le Christ doit exister. Mais s'il n'avait pas accompli de miracles, à l'époque, il y en a des prédicateurs, comme aujourd'hui.
Oui, absolument.
Pourquoi les gens viennent? Parce qu'il a accompli des miracles.
Et puis il y a eu...
Si la deuxième, la troisième génération, si leurs grands-parents, leurs parents n'avaient pas été témoins des miracles, est-ce que les autres se sont fait martyriser pour
c'est
le Christ,
évidence.
Pour une illusion, pour une idéologie? Non, c'est parce que ils ont été témoins des miracles. Et il n'y a pas de miracle dans d'autres religions.
Alors pourtant, dans l'islam, on prétend qu'il y en a. C'est ce que disent les ayatollahs. Moi, je ne le connais pas du tout, mais eux, ils se targuent de devenir des martyrs. D'ailleurs, en ce moment, ça bat son plein cette histoire-là. Parce que ceux qui ont été désingués par les Américains, on les érige au rang de martyrs.
Oui, ils sont au rang de martyrs.
Il y a combien, encore l'ayatollah El Khamenei, il existe encore celui-là? Non, il y en a, le père a été désingué, le fils existe plus ou moins, il est caché et blessé quelque part. Où est-ce qu'on en est, Marc, de cette actualité? Parce qu'il faut parler un peu de l'actualité. Parce que le diable se déchaîne partout en ce moment. On nous a dit l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité, l'Europe, c'est le développement. Eh bien... Tout cela, c'était en 2002 quand on a introduit l'euro, rappelez-vous. Et ben, tout ça, c'était faux. L'Europe, c'est une guerre terrible contre la Russie, tout le temps. Regardez, l'Allemagne arme à outrance en ce moment l'Ukraine contre la Russie. L'Europe, c'est le déclin économique avéré. Tous les économistes le disent. Aujourd'hui, je crois que l'économie européenne, ce n'est plus que 25% de la richesse mondiale, alors que c'était 75% dans les années 90. L'Europe, c'est le déclin social et le déclassement partout, et c'est l'arrivée d'une mafia au pouvoir, avec Mme von der Leyen et toute sa clique, qui est le contraire même des idéaux démocratiques qu'on nous vend tous les jours. Donc c'est une erreur énorme. Alors, des questions d'auditeurs, parce que là, on arrive à la fin de l'émission, mais il faut lire les questions des
Alors, on a un auditeur qui nous dit « Bonsoir, le migrant sert à enrichir le système libéral et capitaliste. Il sert aussi de contre-pouvoir face au peuple qui veut le retour à l'enracinement et l'identité de sa nation. Vous ne parlez pas de ce second cas qui est utilisé par le pouvoir de l'État profond comme destructeur des nations.
Ça,
pourquoi ?»
On n'en parle pas parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'en parler, mais on est d'accord avec cette analyse qui est juste. Alors, il est évident que les chefs d'entreprise ont tout intérêt à avoir de la main-d'œuvre bon marché, parce que ça permet de faire davantage de profits. Et derrière ça, on ne veut pas reprocher aux chefs d'entreprise de ne pas le faire, puisque c'est la règle du jeu. Par contre, la défaillance effroyable, c'est celle de l'État, qui laisse filer la dette depuis 30 ans, et qui laisse entrer une immigration totalement incontrôlable avec des fraudes, mais dans des quantités, proportions gigantesques, au détriment du peuple et de ses nationaux. Parce que quand même, la première mission de l'État, c'est de défendre ses nationaux et pas de faire le bonheur du genre humain. Mais là, il y a une espèce de folie collective qui dure depuis 30 ans et qui est religieuse, c'est ce que dit Harwell d'ailleurs. Plus de 30 ans, même 50 ans, on peut dire. Mmh. Mais c'est une évidence. Alors, il est évident que l'immigration... C'est, et d'ailleurs, qui fait venir ces gens-là? Qui leur donne des iPhones? Qui leur donne des aides? Qui les recueille? Enfin, voyons, quand on ne veut pas d'immigration, il n'y a pas d'immigration. Regardez l'Australie, il n'y a pas d'immigrants. Il n'y a pas de migrants. De toute façon, ils savent très bien qu'ils n'arriveront pas jusqu'aux côtes. Y a pas d'immigrants. On le veut, c'est voulu, ça c'est sûr que c'est voulu. Et d'ailleurs, regardez, vous qui êtes d'origine polonaise, Marc, prussienne et polonaise, regardez les pressions qui s'exercent sur les pays comme la Pologne et la Hongrie.
Actuellement, hein? C'est une déferlante. Hein.
Alors voilà, parlez-en, ça c'est important.
Actuellement, vous prenez en Pologne, ça n'a rien à voir par rapport à un ou
2 ans. Ah déjà, vous voyez.
Ah oui.
Il y a le front de l'Est par la Biélorussie où ça passe beaucoup, mais il y a aussi par l'Allemagne.
Alors parce que c'est des Turcs,
non.
Des arabo-musulmans, de toute
Afrique subsaharienne.
Je sais que c'est subsaharienne.
Clairement, c'est-à-dire, il y a de l'Afghan aussi,
il y a
de l'Afghanistan, mais ce que nous on appelle Maghreb, beaucoup moins.
Et que comment réagissent les Polonais, les vrais Polonais?
Le pays est vraiment scindé en deux aujourd'hui, c'est-à-dire il est extrêmement clivé, il y a la plateforme civique qui est vraiment dans une logique de... Il faut les accueillir, il faut s'enrichir. Voilà, c'est-à-dire.
Ça, c'est donc
c'est la diversité, c'est la richesse.
Les gnostico-millénaristes.
Et il y a le côté un peu plus traditionnel qui a vu ce qui s'est passé en France, en Irlande, et qui s'inquiète.
Au Royaume-Uni.
Et qui est un petit peu manifeste, mais c'est un pétard mouillé. Puisque aujourd'hui, au moins aujourd'hui, dans les temps présents, il y a aussi des législations qui apparaissent en Pologne sur les discours de haine.
Ah oui.
Et en effet, ne pas accueillir le migrant, désormais, ça assimile un discours de haine.
C'est exactement ce que dit Orwell. Et c'est une religion, une religion totalitaire. Ça, c'est une
et
évidence.
Ça se manifeste aussi par l'émancipation, j'appellerais ça comme ça, d'un parti qui s'appelle la Confédération.
Oui.
Qui est peut-être l'équivalent de ce qu'était Jean-Marie Le Pen dans les années 70-80, fin des années 80 en France, avec un personnage un peu atypique qui est pour le rétablissement de la monarchie.
Ah, c'est bien ça. Voilà,
Jack Dash Brown.
Bah, ouais.
Et pour l'anecdote, ce que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'il a subi un accident et il porte un monocle noir. Un monocle noir comme Jean-Marie à une époque.
De Jean-Marie Le Pen.
J'ai vraiment l'impression que des fois, c'est l'histoire qui se répète.
Et de Fritz Lang aussi. Fritz Lang a porté un monocle noir. Il y a d'autres questions?
Et la Pologne, qui est un pays catholique, ne vous étonnez pas.
Catholique, mais dont la catholicité est attaquée et la pratique est totalement en déclin aussi. C'est-à-dire, moi j'ai...
Alors, il y a des questions encore d'auditeurs.
Il y a un auditeur qui nous demande comment vit un catholique franc-maçon.
Comment
vit un catholique franc-maçon?
Quel est son mode de vie?
Il vit dans une... Comment on peut dire? Dans un... Il n'a pas compris. C'est-à-dire, il est trompé. Il est trompé. Il est peut-être de bonne foi. Il croit que c'est conciliable. Je lui dirais simplement qu'il est excommunié de facto depuis 1738. Et il y a eu des textes, un texte un petit peu flou en 83, ça fait partie de la crise de l'Église, mais la condamnation n'a pas été levée. Alors, le pape a réitéré cette condamnation à la fin du 19e. Il y a un aspect philosophique parce qu'il a condamné en même temps le naturalisme, c'est-à-dire la négation du surnaturel, le socialisme et la franc-maçonnerie. Donc avant le 20e siècle, si on avait écouté le pape, le 20e siècle, moi, ce qui m'a aussi bouleversé, c'est que, c'est vraiment le mot, c'est qu'au XXe siècle, il y a 200 millions de morts et qu'on n'en parle jamais. On parle des victimes du nazisme, très bien, il y a des morts au nazisme, mais les crimes communistes, c'est 150 millions de morts
et ils sont
à l'université et ils sont au gouvernement.
Et Pol Pot,
et
Mao Tse-Tung.
Des millions et des millions et des millions. Et ça, c'est toute chose, il y a deux poids, deux mesures sur un plan de culture qui est un scandale absolu. Il faut un procès de Nuremberg du communisme. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'il y a des complices du communisme, dont la franc-maçonnerie.
Et puis il y a cette idée absurde.
Ce franc-maçon catholique, il est dans l'erreur la plus totale. Donc je l'invite à réfléchir, à sortir de la franc-maçonnerie s'il veut sauver son âme. C'est très clair.
Et alors,
il n'est pas le seul, j'en connais. C'est absolument inconciliable. Mais ils prétendent évidemment le contraire. Au XVIIIe siècle, il y a des catholiques, il y a des évêques qui deviennent francs-maçons. Mais je rappelle aussi qu'à la Révolution, il y en a beaucoup qui se sont fait couper la tête. On les induit en erreur.
Et une question, est-ce qu'il y a beaucoup de francs-maçons justement en Asie, en Chine, dans les milieux communistes?
Oui, non, c'est surtout l'Occident et c'est surtout l'Europe, les États-Unis et l'Europe.
Et en Russie?
Et en Afrique, il y en a beaucoup.
Et en Afrique?
En Afrique, oui. Tous les dirigeants des ex-colonies étaient maçonniques. Il y avait tout un trafic maçonnique entre l'Afrique et la France, bien entendu.
C'est ça.
Et dans les pays comme la Chine actuelle?
Non, je ne pense pas. Je n'ai pas la connaissance.
Et le Japon?
Non, je ne sais pas.
Et la Russie, qu'est-ce que...
La Russie, je n'ai pas de connaissance.
Et quelle est la position?
Pardon, mais j'aime mieux répondre que je ne sais pas.
Évidemment.
Moi, je sais pour les pays d'Europe et je sais pour les États-Unis et l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ça, c'est sûr.
Parce que ces pays comme la Russie, la Chine ont défendu le communisme et certainement ont contribué au fait qu'on n'ait pas considéré que les crimes commis par les communistes étaient des...
Ah bon, on les a minimisés énormément.
Plus que les francs-maçons,
les
quand même, non, j'imagine, à moins qu'il y ait des liens entre les communistes et les francs-maçons.
Et vous parlez d'Europe, donc je vais peut-être poser une question provocante.
Oui.
Quelle est la place de la franc-maçonnerie au Vatican, dans l'État du Vatican?
Alors, je ne le sais pas non plus. Alors, vous savez, il y a des gens qui disent... Alors, il y a eu beaucoup d'ecclésiastiques francs-maçons au XVIIIe, notamment. Il y en a encore, très probablement. Mais je n'ai pas de preuves. On n'a pas les noms.
D'accord.
Alors, un ancien grand maître, Barouin, avait dit qu'il y avait pas mal d'évêques francs-maçons. C'est probable. Mais je n'ai pas les preuves. Donc, moi, je ne donne dans mes livres que les francs-maçons qui sont reconnus par les dictionnaires maçonniques et eux-mêmes. Je n'en invente pas beaucoup. Alors, je ne donne aussi que ceux qui ne sont plus vivants. Parce que les vivants, je ne veux pas avoir trop d'ennuis à donner leur nom. Voilà. Mais par contre, j'en connais dans les médias, j'en connais dans les milieux sportifs, j'en connais dans les chanteurs. J'ai fréquenté tous ces milieux d'affaires quand j'étais avocat. J'en connais beaucoup. J'en ai connu beaucoup.
Et vous avez quitté le barreau en quelle année, alors?
J'ai quitté avant les années 80.
Donc,
j'ai resté une dizaine d'années.
À la fin des années 70.
En 80.
En 80, oui. Et qu'est-ce qui vous a déterminé? C'est cette affaire avec les ministres?
Oui, c'est aussi, écoutez, des raisons personnelles, si vous me pardonnez.
Et vous étiez un spécialiste de quelle discipline? Droit pénal, droit civil, droit des affaires?
Je m'occupais beaucoup d'immobilier.
De droit immobilier,
c'est ça. Et puis, beaucoup de pénal, parce que j'ai été ce qu'on appelle secrétaire de la conférence.
Oui, je sais, oui.
Voilà, donc on a des commissions d'office, donc j'ai beaucoup connu les prisons. C'est une expérience. Il y avait d'ailleurs déjà à l'époque pas mal d'immigrés en prison, mais aujourd'hui, la proportion est totalement considérable.
J'ai une question toujours pour revenir à la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y a beaucoup de collusion entre justement les francs-maçons et la distribution des fonds publics par l'État?
Énorme. Alors le franc-maçon de base, il est souvent dans la loge locale pour avoir accès au marché d'État. Et c'est pareil. On va dire que 80% des francs-maçons, ils sont là pour les affaires.
Oui, bien sûr.
C'est ça.
Mais le problème, c'est que derrière la base, il y a une religion.
Oui.
Et que ce sont aussi eux qui sont, par exemple, à l'origine de la loi sur l'avortement. Elle vient directement de loges maçonniques.
Simone Veil était...
Non. Mais ceux qui ont présenté les lois, ceux qui ont rédigé les lois l'étaient. C'est un ancien, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelait Simon, qui a préparé les lois. Toutes les lois sont préparées. Et les obédiences participent à des fraternités parlementaires et ils se mettent d'accord. À la télévision, ils luttent les uns contre les autres et après ils se réunissent, ils se tutoient et ils mettent en place ce qui va se passer. Aujourd'hui, ils sont en hésitation pour savoir quelle nouvelle marionnette ils vont nous agiter.
Oui, oui. Alors, ils ont été Édouard Philippe pour prendre la suite de Macron.
Par exemple.
Le Figaro essayait de montrer qu'Édouard Philippe allait sauver la...
Mais on est loin de l'élection. Vous savez qu'il y a la jurisprudence Balladur, il y a la jurisprudence Fillon.
Oui,
Strauss-Kahn. Voilà. On n'est pas à l'élection.
On n'est pas à l'élection, oui, c'est sûr. Mais... écoutez, c'est tout ça.
Mais la franc-maçonnerie a un rôle, si vous voulez. Le rôle politique, il est certain. Le rôle... Dans les affaires, les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, l'éducation nationale. Tous les programmes sont faits par des francs-maçons. Alors, quand je dis qu'ils ne sont pas tous francs-maçons, bien entendu, on va me dire tout le monde n'est pas franc-maçon. Non. Mais ils sont tellement nombreux, Alors, ils sont plus ou moins, il y en a qui sont sans tablier, si on peut s'exprimer ainsi. Je ne dis pas que tous les députés sont francs-maçons, de même que dans le gouvernement actuel, je dirais les trois quarts le sont, y compris les femmes.
Et Macron, vous pensez qu'il l'est ?
Alors, c'est nié, Par contre, il a une connaissance de l'ésotérisme des Rose-Croix. Mmh. Il l'a dit plusieurs fois dans ses discours, avant même d'être élu. Mmh. Et j'ai appris récemment qu'il avait été adoubé par Habermas, qui est un de...
Oui, Jürgen Habermas, qui est mort récemment.
Voilà.
Et c'est lui qui a dit qu'il fallait faire venir les migrants parce qu'ils étaient des révolutionnaires.
Absolument.
Nés,
c'est ce que j'ai expliqué déjà sur des chaînes.
Qu'il permettrait de détruire
la France. Donc je pense que M. Macron fait obéir à des ordres et que l'endettement est volontaire.
Ah oui,
Necker avait endetté la France. Hein. Necker, qui était franc-maçon et qui a noyauté les États généraux. Je raconte ça dans mon livre sur la Révolution des Illuminés. Et c'est pareil, là, l'endettement de la France et l'immigration, c'est pour achever la révolution. C'est pour que les révolutionnaires fassent la révolution. Mm-hmm. Et nous allons donc probablement vers des périodes
très difficiles,
les deux camps auront des victimes.
Ah bah,
il y aura des jeunes qui vont tuer, mais il y aura aussi des jeunes qui seront tués.
Absolument.
Donc ce n'est pas ce que je souhaite.
Eh bien, ça risque d'être un bain de sang.
C'est un danger.
Bien sûr, mais de toute façon,
il faut être réaliste.
Ça, on est tout à fait d'accord. On a deux bombes à retardement, je le dis depuis 25 ans, 20 ans. J'ai dit, on a deux bombes à retardement, la dette et l'immigration. Mais on se moquait de nous dans les années 2005, on disait ça.
Moins maintenant.
Et tout le monde nous disait, vous êtes comme les témoins de Jéhovah, vous annoncez toujours la première fin du monde, elle n'arrive jamais. Elle arrive. Mais le problème, c'est que les grands phénomènes, il y a quelques visionnaires qui les voient, et la plupart ne veulent pas les voir, parce que les grands phénomènes... C'est ce qu'expliquait un de nos interlocuteurs. Il se déplace de loin, il semble presque immobile. Et c'est au dernier moment que leur vitesse apparaît. C'est comme une voiture sur la route. Au loin, elle a l'air d'être un point sur la route. Elle grossit très peu. Et puis au dernier moment, elle vous débouche dessus, elle vous écrase. Et c'est ce qu'elle s'appelle la constante de Feigenbaum. C'est 4, je ne sais pas combien, c'est le chiffre de l'accélération des phénomènes. Par exemple, une bouilloire, l'eau met très longtemps. Elle est très longtemps à se réchauffer. C'est exponentiel. Et puis ça monte. Et d'un coup, on monte à l'ébullition. Et il y a une constante, c'est 4,482, quelque chose comme ça. Constante de Feigenbaum, qui était un physicien, probablement juif d'ailleurs, comme Einstein et les autres, ou Oppenheimer, qui l'a mis en évidence. Et c'est une règle qui est intéressante parce qu'elle est citée dans le livre très intéressant de Bolloré et de Bonacier sur Dieu, la science, l'épreuve. Il y a un certain nombre de chiffres, comme le chiffre pi, comme ce chiffre-là, comme epsilon, qui sont des chiffres d'une précision extrême et sur lequel tout l'univers est bâti. Et ça, c'est très, très curieux.
Rien n'est écrit, hein, c'est par mathématiques. Nos économistes ne sont que des mathématiciens, donc ils oublient la dimension sociale et la dimension religieuse.
Oui, ça, c'est très...
Donc, si vous voulez, pour clore, hein, parce que je vois que...
De toute façon, on n'a plus qu'une...
Moi, je dirais que de toute façon, nous devons lutter en politique et nous devons lutter... dans le domaine religieux et pour la culture. Moi, je fais une croisade culturelle. Donc, je vais simplement saluer les auditeurs en leur disant, nous sommes des croisés.
Exactement. Alors, de toute façon, nous continuons demain cette émission avec Alain Pascal. Nous parlerons de l'autre ouvrage
de la crise sacrificielle du monde moderne.
Je pourrais donner pas mal d'exemples intéressants. Alors,
dans ce livre sur la révision totale de l'histoire, je parle du passé. Mais j'ai aussi une prospective sur ce que j'appelle la guerre des banlieues. Donc, à partir du moment où la France sera ruinée, nous ne pourrons plus déverser ces milliards sur l'immigration. Et il se passera comme à Rome, et ils viendront se servir.
C'est ce que je me tue à dire. C'est ce que j'ai encore dit à une étudiante il y a deux jours.
Il y a un aspect.
Parce qu'elle disait, vous comprenez, je ne veux pas heurter les gens de gauche. Mais je lui dis, vous savez, mademoiselle, c'est moins grave de heurter les gens de gauche que d'avoir une guerre civile. Hein.
Absolument.
Non, mais voilà. Écoutez, chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous continuons demain donc avec Alain Pascal. Je vous recommande ses ouvrages. Vous les trouvez aux éditions Le Verbe Haut. Pour une révision totale de l'histoire. Il y a donc la crise sacrificielle du monde moderne qui va apparaître.
Qui est paru.
C'est un très curieux parallèle avec les travaux de Jean-Louis Harwell, qui vont exactement dans le même sens. Donc, il y a une trame commune, alors qu'ils ne se connaissent pas énormément, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Hein. c'est-à-dire qu'une inspiration commune, c'est-à-dire qu'on décrypte quelque chose qui est sous-jacent, et ce sont les points d'émergence d'un fleuve souterrain. Et ça, c'est très important, parce que vous n'êtes pas concerté pour défaire ces découvertes. Elles sont apparues à peu près au même moment. Voilà. Merci, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal du droit et des libertés, dirigé par Olivier Tournafond, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 28 avril 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.